Christian Théin va-t-il être remis en liberté sous contrôle judiciaire? Les juges ont dit oui, mais le parquet de Paris a fait appel. Réponse sous 48 heures. Le dossier calédonien à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a été interpellé par les deux députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou. De la pluie en abondance cette nuit et encore ce matin, mais les conditions météo vont s'améliorer dans la journée. Il faut toutefois rester vigilant. En métropole, le policier accusé d'avoir tué le jeune Naël lors d'un contrôle routier renvoyé devant une cour d'assises. Son avocat a fait appel. Durcir l'arsenal juridique pour les casseurs. Le Premier ministre et son ministre de la Justice font des propositions pour éviter des peines souvent jugées trop clémentes. Et puis en tennis, tous les yeux sont tournés à Roland-Garros vers Loïse Boisson. À 22 ans, la Française tentera ce soir d'accéder aux demi-finales du tournoi féminin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette information Radio Rythme Bleu. Il s'agit d'un vol à main armée qui a eu lieu à la station mobile de Coutiot. Les faits remontent à lundi soir, Nicolas Legrand.
Oui, 6 hommes sont arrivés en pick-up vers 20h50. Ils ont dissimulé leur visage en arrivant sur les lieux. C'est donc cagoulés et armés de sabres d'abattis qu'ils sont entrés dans cette station-service en cours de réfection puisqu'elle avait subi d'importants dommages pendant la période des émeutes insurrectionnelles. Ils ont alors demandé à tout le monde de se mettre à terre, puis ils ont fait main basse sur la caisse. Selon nos informations, le montant du butin est estimé à 1 million de francs, ainsi que des cigarettes. Les malfaiteurs ont ensuite repris la fuite à bord de leur pick-up blanc et sont toujours activement recherchés par la gendarmerie qui a ouvert une enquête.
La mobile qui a malgré tout inauguré sa nouvelle station rénovée Baie de la Moselle. Rénovation rendue nécessaire pour une mise en conformité réglementaire. Les anciennes cuves souterraines d'hydrocarbures ont été fermées et remplacées par de nouvelles. L'occasion, explique Franck Willems, le directeur général de la société mobile, d'améliorer l'ensemble du site.
Sur la piste, avant, on n'avait que deux pompes. Donc, on a cassé l'ancien bâtiment de la station-service pour agrandir la piste, avoir un îlot supplémentaire de pompes. Donc, aujourd'hui, on a une capacité d'accueillir deux fois plus de véhicules sur la piste de carburant. Et en cassant l'ancien bâtiment, on a reconstruit la boutique dans l'ancien atelier qu'on avait sur la station-service. Ça nous a permis d'agrandir significativement la surface commerciale parce qu'on est passé d'une surface d'à peu près 50 mètres carrés à 110 mètres carrés. Donc, on a vraiment doublé la surface commerciale pour pouvoir, après, appliquer tous les standards de boutiques qu'on a sur le réseau mobile qui nous permet aujourd'hui de répondre à la demande de nos consommateurs qui sont friands de tous les produits qu'on peut proposer dans la boutique.
Une station qualifiée de bijou du réseau mobile par son directeur et qui représente un investissement de plus de 100 millions de francs. Revenons à l'actualité judiciaire et après Frédéric Mouliava qui a été autorisé vendredi à quitter la métropole et à rentrer à Nouméa, c'est Christian Théin qui pourrait éventuellement être libéré. Mais les juges et le parquet s'opposent sur cette décision, Elisabeth Noir.
Le leader de la CCAT et président du FLNKS a en effet été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier par les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les violences insurrectionnelles qui ont débuté en mai 2024. Mais Christian Théin n'est pas encore libre parce que le parquet de Paris s'y est opposé et c'est la cour d'appel qui va devoir trancher. Après la décision du juge, le ministère public a en effet déposé un référé détention. Et dans l'immédiat, Christian Théin va rester en prison. Rappelons qu'il est en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mulhouse depuis près d'un an. Il y a été transféré en juin 2024. On sait que le dossier a été dépaysé en janvier. Et c'est le 27 mai dernier que les trois juges d'instruction ont interrogé Christian Théin avant d'accepter hier sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et d'entrer en contact avec 13 autres protagonistes du dossier. Les magistrats ont notamment estimé qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que Christian Théin ou d'autres mis en examen auraient préparé un attroupement armé ou un groupement violent. Il relève notamment que l'érection de barrages est fréquente en Nouvelle-Calédonie et qu'il est imputable tant aux militants indépendantistes qu'aux voisins vigilants. Selon une source proche du dossier, l'étude des supports informatiques de Christian Théin n'aurait en outre pas révélé à ce stade d'éléments incriminants. Le parquet s'est opposé à cette libération en estimant que Christian Théin occupait une place centrale comme commanditaire d'un plan d'action violente contre l'État en trois phases visant à déstabiliser les entreprises et les commerces, les administrations et les services de l'État par la commission de nombreuses exactions contre les biens et les personnes. Pour le ministère public, Christian Théin pourrait vouloir se soustraire à la justice grâce à ses complices s'il parvenait à rejoindre la Nouvelle-Calédonie grâce à sa remise en liberté. C'est maintenant un juge de la Cour d'appel de Paris qui doit trancher. Il a 48 heures pour dire s'il suspend ou non les effets de l'ordonnance de mise en liberté. S'il suspend cette mise en liberté, Christian Théin restera en détention jusqu'à l'audience à la chambre de l'instruction qui est prévue dans les 10 jours et qui devra à son tour confirmer ou infirmer la remise en liberté.
Et au moins trois autres membres de la CCAT détenus en métropole, Dimitri Kenegay, Guillaume Vama et Arwan Waetean, ont bénéficié de la même décision de libération de la part des juges d'instruction, mais de la même manière, le parquet s'y est opposé. La méthode n'a pas changé, affirme Manuel Valls, interrogé à l'Assemblée nationale par le député Emmanuel Tchibaou sur l'initiative prise par le président de la République d'inviter les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Je crois qu'un accord est possible, a martelé le ministre des Outre-mer qui a aussi été interrogé lors de cette séance par le député Nicolas Metzdorf, Elisabeth.
Lors de cette séance des questions au gouvernement, le député Nicolas Metzdorf a interpellé Manuel Valls sur le sentiment d'abandon que peuvent ressentir les ultramarins avec une question. La France a-t-elle encore une ambition pour elle-même ?
Monsieur le ministre, est-ce que la France a encore une ambition ? Non pas pour ses outre-mer, mais pour elle-même. Que pouvons-nous dire à ces centaines de milliers de Français d'outre-mer, sur leurs îles, qui brandissent le drapeau français, qui chantent la Marseillaise ? Que pouvons-nous dire, si ce n'est aujourd'hui d'essayer de les raisonner sur le sentiment d'abandon qu'ils puissent avoir ? Monsieur le ministre, vous savez, mon arrière-grand-père a quitté la Nouvelle-Calédonie pour la première fois de sa vie pour venir se battre aux côtés de tirailleurs kanaks à Verdun, pour défendre la France, la République et l'idéal qu'il en avait. Nous méritons mieux que l'abandon. Nous ne voulons pas de reconnaissance. Nous voulons simplement de l'ambition et la fierté de pouvoir se dire que nous sommes des Français.
Dans sa réponse, le ministre des Outre-mer a défendu la politique menée outre-mer par le gouvernement, que ce soit à Mayotte, à La Réunion, aux Antilles ou en Guyane, avant d'évoquer la Nouvelle-Calédonie.
Et en Nouvelle-Calédonie, et vous le savez, monsieur le député, c'est trouver un chemin. Il est difficile, entre différentes aspirations, mais pas en opposant les uns et les autres, pas en opposant les histoires, en reconnaissant ces fractures béantes et en faisant en sorte que chacun, enfin, puisse se retrouver. Et pour cela, je compte sur vous, comme je compte sur le député Emmanuel Tchibaou, parce que je suis convaincu qu'un accord est possible en respectant l'histoire, en ne cédant pas à la caricature et en brandissant un seul drapeau, celui du cœur et de la République, parce que c'est ce que tout le monde attend là-bas.
Le député Nicolas Metzdorf disposait de quelques secondes pour réagir après la réponse du ministre des Outre-mer. Il en a profité pour réaffirmer la volonté des partisans de la France de trouver un accord.
Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude d'arriver à finalement s'entendre. Et ne doutez pas de la volonté des non-indépendantistes de trouver un accord qui permette à la Nouvelle-Calédonie de se reconstruire dans la paix. Mais, monsieur le ministre, ce nouvel accord devra être dans le choix des Calédoniens, celui de la France.
C'est ensuite son collègue de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, qui a interpellé Manuel Valls. Il a d'abord relevé que le président de la République avait annoncé qu'il reprenait la main sur le dossier calédonien et il s'inquiète de voir un changement de méthode dans les discussions. Mais il évoque également le projet proposé par Manuel Valls à Deva, en parlant d'ailleurs d'un projet d'État confédéré.
Le gouvernement a présenté à Deva, au terme d'un débat amorcé depuis janvier, un projet d'État confédéré qui reflétait deux aspirations fondamentale. D'un côté, celle de l'émancipation aux confins d'une souveraineté partagée. De l'autre, celle de la protection et la sécurité de nos compatriotes désireux de conserver un lien avec la France. La rencontre de Deva, si elle n'a pas abouti à un accord, reste un point d'étape majeur dans l'élaboration de l'accord politique, toujours en cours de discussion, tant il a recueilli les faveurs de la majorité des groupes politiques présents, ainsi que celle du FLNKS. Il faut l'enrichir, le capitaliser afin de répondre aux attentes de nos populations. Nous le savons tous, si aucun accord politique n'est trouvé d'ici fin juin, nous rentrerons dans un tunnel électoral avec une sortie pour fin de semestre 2027. Les élections provinciales, municipales et les présidentielles. Trois années dans un territoire exsangue, sans perspective de relance économique, crise sanitaire avec une incapacité à mener les réformes nécessaires à son avenir. La question qu'on se pose, c'est comment capitaliser le passif de cette méthode qui nous a ramenés sur le chemin de la concorde et faire aboutir un accord politique si une fois encore, la méthode et le format de discussion changent à nouveau.
Mais justement, la méthode n'a pas changé, c'est la réponse de Manuel Valls. Il réaffirme sa volonté de poursuivre sa mission et de conclure un accord.
La méthode n'a pas changé. Le Premier ministre m'a confié une mission de rétablir la voie du dialogue, c'est fait, et de conclure un accord de paix en Nouvelle-Calédonie. Et cette mission, elle se poursuit, sous l'autorité du président de la République, bien évidemment, et avec la confiance du Premier ministre. Et tant que j'aurai cette énergie, et tant que je penserai qu'un accord est possible, je poursuivrai cette mission. Et je suis convaincu qu'un accord est possible en alliant les aspirations en effet contradictoires que vous avez évoquées. Et pourquoi un accord est possible en Nouvelle-Calédonie ? C'est parce que son économie est aujourd'hui à terre, parce que nous risquons une explosion sociale, parce que le système de santé s'est effondré, parce qu'il y a des centaines de sans-domicile fixe à Nouméa, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Alors notre devoir, notre responsabilité, celle de l'État, mais aussi d'abord celle des élus calédoniens, mais également des forces économiques et sociales, c'est de trouver un accord. Parce que sans accord, il ne peut pas y avoir de rétablissement de l'économie et de la situation sociale en Nouvelle-Calédonie.
Et le ministre des Outre-mer a précisé le format des discussions qui doivent se dérouler à Paris, ainsi que leurs objectifs.
Dans les jours qui viennent, nous ferons avec le président de la République et le chef du gouvernement des propositions de dialogue ici à Paris, peut-être avec les forces économiques et sociales, sans doute avec les maires, mais d'abord avec les forces politiques. Et en achevant le processus de décolonisation et en allant jusqu'au bout du droit à l'autodétermination, en respectant bien évidemment la parole des Calédoniens, mais en n'oubliant pas l'histoire et le passé qui a conduit au désastre des années 80 et qui a conduit au drame de 2024. Donc de toutes mes forces, Monsieur le député, je suis convaincu, avec votre soutien et aussi avec celui de Nicolas Metzdorf, nous trouverons une solution. C'est essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour notre patrie, pour la France.
Manuel Valls qui confirme son implication et son engagement dans le dossier calédonien, ainsi que sa volonté de trouver un accord qui, selon lui, est possible.
Il est 11h42, une pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie. On s'intéressera à l'épisode de météo très pluvieux qui a touché notamment la Grande Terre la nuit dernière et ce matin encore.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Découvrez Papaye, le nouveau service d'autopartage 100% digital pour les particuliers et les pros. Réservé en un clic et roulé en toute liberté, www.papaye.nc.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Un point maintenant sur le phénomène météo qui concerne la Calédonie. Ces dernières heures, notamment la Grande Terre, de fortes pluies ont touché une partie du territoire et notamment la côte est, Michael Juneski.
Oui, des précipitations soutenues et des orages sur une grande partie du territoire la nuit dernière et ce matin encore. Pour l'heure, pas de dégâts majeurs signalés. Des cumuls de l'ordre de 220 mm en l'espace de 12 heures ont toutefois été relevés, notamment dans la région de Pointe-d'Imier. Les prévisions de Stéphane Lacroix du Service Météo France de Nouvelle-Calédonie.
L'axe pluvio-orageux qui nous a concerné la nuit dernière et surtout ce matin est en train de s'évacuer là, de la Grande Terre et concerne encore les Loyautés. On a relevé au cours de, des 12 dernières heures sur la côte est de 150 à 200 mm en 12 heures avec un maximum de 220 mm à Pointe-d'Imier. On a eu effectivement un épisode orageux avec de nombreux impacts de foudre sur la Grande Terre et puis maintenant aux Loyautés. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. Oui. D'une part, on a eu une descente d'air chaud tropical par le nord, donc au niveau par le Vanuatu, et d'autre part, un axe de convergence associé à une dépression qui s'est creusée en mer de Tasmanie et qui est arrivée par l'ouest. Ces deux phénomènes conjugués ont apporté donc de nombreuses précipitations sur la côte est notamment.
Le gouvernement avait appelé la population à faire preuve de vigilance. Sur la côte est, certains axes secondaires sont impraticables ce matin. Le ramassage scolaire a notamment été arrêté à Pointe-d'Imier aujourd'hui. Philippe Bouama de la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques.
On peut noter quand même sur la côte est, on a beaucoup d'axes secondaires qui ont été bloqués. Pour cela, on a la commune de Pointe-d'Imier qui a donc pris un arrêté sur le ramassage scolaire donc, qui a été annulé sur l'ensemble de la commune. Donc forcément, ça a un impact après sur les enfants qui vont à l'école. Après, on a quelques communes comme Thieu et Canala où pratiquement l'ensemble des axes secondaires ont été coupés. Voilà. Mais on n'a pas de remontée significative sur l'impact du phénomène sur toutes les communes qui ont été placées en vigilance orange forte pluie. On peut quand même constater beaucoup d'axes secondaires, donc les routes municipales qui restent bloquées.
La prudence reste de mise, notamment dans les zones où les cours d'eau ont débordé. Notez encore que dans le Grand Nouméa, en raison des fortes pluies, la ville de Dimbéa a décidé par précaution de la fermeture du parc provincial de la Dimbéa jusqu'à nouvel ordre. Et si les éclaircies reviennent pour la suite de cette journée, de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h et notamment un coup d'ouest sont attendues pour ce jeudi, ainsi que de nouvelles averses la nuit prochaine et demain.
Une tragédie de la pénurie de soignants. Claude Gambert réagit à la mort d'un homme sur le parking de l'hôpital de Kouma qui est resté porte-close ce week-end. Le membre du gouvernement en charge de la santé était notre invité ce matin. Il rentre d'un déplacement en métropole qui avait pour objectif justement de trouver des solutions à court terme pour pallier le manque de personnel dans les structures hospitalières du territoire. Un voyage productif selon Claude Gambert.
Nous avons reçu un très bon accueil. On aura des infirmières à la sortie des IFSI au mois de juillet. J'ai surtout concentré ma mission sur les disciplines qui manquent cruellement à la Nouvelle-Calédonie, l'ophtalmologie, l'oncologie, la gastro-entérologie. Il y a également la santé mentale qui est en grande souffrance. J'ai reçu un accueil très favorable. Cela se devrait se concrétiser par des conventions de partenariat afin qu'ils puissent nous envoyer des missions de soutien. Pour la Fondation Rothschild, par exemple, pour la question de l'ophtalmologie, la mission est déjà repartie puisqu'ils sont, ils sont venus. Et il y a d'autres missions qui vont venir pour nous soutenir. Toutes ces conventions-là vont être encadrées par une convention en cadre de partenariat avec l'État, puisque je suis passé également au ministère de la Santé, avec qui nous avons longuement échangé. Et donc la convention est en cours de rédaction avec l'OSARIA. Donc c'est quelque chose qui doit se faire d'ici quelques semaines.
Le gouvernement mise également sur l'embauche de médecins étrangers pour les solutions à court et moyen terme, mais sur le long terme, Claude Gambet affirme qu'il faudra réformer tout le système de santé calédonien.
Il faut tendre vers un modèle qui est soutenable, parce que le modèle actuel il est à hauteur de 130 milliards. Il faut que ce soit un modèle qui soit durable, travailler beaucoup plus à prévention, et puis il faut que ce soit un modèle qui soit acceptable par les Calédoniens. Donc il faut utiliser les savoir-faire et le capital naturel des Calédoniens.
Donc exactement. Des solutions à court, moyen et long terme, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut s'habituer à ce qu'on ait une offre de soins dégradée ?
Actuellement, il y a un chantier lancé, c'est la refonte de la carte sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, qui va préciser très exactement les moyens qu'il va falloir déployer pour satisfaire les besoins des Calédoniens, et à ce moment-là, je pourrais vous dire si il faudra rétrograder dans ce qu'on a connu ou s'il faut au contraire renforcer l'offre de soins actuelle. Voilà. Parce qu'il y a une équipe qui va faire ce travail-là, qui va s'occuper de la refonte de la carte sanitaire de Nouvelle-Calédonie. On verra les résultats d'ici la fin de l'année.
Voilà. Ouais, Claude Gambet, membre du gouvernement en charge de la santé, interrogé par Nicolas Legrand. Il était ce matin notre invité à 7h30 et pouvait retrouver cette interview sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à la question d'hier. Après la mort d'un homme victime d'une crise cardiaque devant l'hôpital de Koumak dont les urgences sont restées fermées, 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre de nouveaux drames en raison de la crise sanitaire qui frappe la province nord. Ils sont 6% à ne pas partager cette crainte. Et puis voici notre question du jour. Partagez-vous le sentiment du garde des Sceaux Gérald Darmanin qui estime à la suite des débordements consécutifs à la victoire du PSG que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays? Si vous partagez ce sentiment, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans la région, les États-Unis, le Japon et l'Australie veulent accroître leur coopération. Même si l'Australie a refusé d'augmenter son budget défense, comme le demandait l'administration Trump, elle continue de collaborer avec les grandes puissances que sont le Japon et les États-Unis pour assurer la stabilité régionale. Jean-Pierre Zajac.
Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a précisé à l'issue des discussions que, je le cite, « ce partenariat est essentiel » pour nous préparer à relever les défis les plus urgents dans la région Indo-Pacifique. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de notre interopérabilité trilatérale et notre coopération opérationnelle, a-t-il ajouté. Les États-Unis, le Japon et l'Australie ont également reconnu dans un communiqué la complexité croissante de l'environnement sécuritaire de la région et ont souligné le rôle crucial de leur partenariat stratégique pour assurer le maintien d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous nous engageons à continuer de travailler avec nos partenaires régionaux pour renforcer les capacités de défense collective et promouvoir la paix et la stabilité de la région, a conclu leur communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Jean-Jacques, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal. On va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole dominée par l'actualité judiciaire.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Besoin de conseils peinture ? Bienvenue chez MBO Colors.
Pour peindre vos intérieurs, rénover votre façade, sublimer vos boiseries ou rafraîchir votre logement avec une peinture anti-chaleur, faites appel au savoir-faire peinture et couleur de MBO Colors. Du devis personnalisé à l'assistance chantier, les experts techniques MBO Colors vous guident dans le choix des meilleurs produits et systèmes pour vos travaux peinture.
Alors à bientôt chez MBO Colors, l'univers de la peinture pour professionnels et particuliers. 4 rue Fulton à Ducasse, 43 43 00.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducasse, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rue de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec la justice à la une, et d'abord cette décision des juges d'instruction à l'encontre du policier qui avait ouvert le feu sur le jeune Naël, 17 ans, qui tentait de se soustraire à un contrôle routier. Le jeune homme est décédé, ça s'est passé à Nanterre il y a un peu plus de 2 ans. Finalement, les juges ont décidé de renvoyer le fonctionnaire devant les assises où il sera jugé pour meurtre. Ils estiment qu'il aurait pu délibérément tuer Naël. Alors que contient l'ordonnance de mise en examen ? William Molinier pour Europe 1.
C'est une lecture qui laisse peu de place à la version du policier. D'abord, les juges ont commencé par évaluer ce qu'on appelle l'intention homicide. Et cette question, le policier voulait-il tuer l'adolescent ? Les magistrats reconnaissent qu'ils n'ont pas de preuves directes, mais je cite, des présomptions de fait, citer pêle-mêle l'usage d'une arme létale, la distance de tir à bout portant et la direction du tir. La visibilité à l'intérieur du véhicule était réduite et donc le policier ne pouvait exclure qu'il allait possiblement tuer Naël. La démonstration est peu convaincante, mais elle fait autorité. Par ailleurs, les juges balaient en bloc la légitime défense. Selon eux, non seulement le policier n'était pas en danger, mais il ne pouvait pas se sentir en danger. Pourquoi ? Parce qu'il ne se trouvait pas sur la trajectoire de la voiture et qu'il avait suffisamment de place du côté du mur pour s'extraire au cas où Naël donnait un coup de volant sur la gauche. Et de rappeler qu'avant le tir, les policiers ne lui avaient pas demandé en bonne et due forme de sortir de la voiture. C'est oublier un peu rapidement que Naël avait déjà refusé d'obtempérer à plusieurs reprises et qu'il avait manqué de renverser plusieurs piétons et cyclistes lors de sa folle embardée dans les rues de Nanterre à l'heure de l'ouverture des écoles.
Et l'avocat du policier, maître Laurent-Franck Liénard, a fait appel de la décision des juges. Il estime que dans ce dossier, la justice refuse de reconnaître qu'elle fait fausse route.
C'est la suite logique d'un processus judiciaire, une machine à broyer qui s'est mise en place dès les premières heures de ce dossier, avec le placement en détention de mon client, qui n'avait rien à faire en prison. Et puis aujourd'hui, une justice qui ne veut pas avouer qu'elle s'est trompée depuis le départ, qu'il y a une loi, que cette loi autorisait le tir. Cette justice qui refuse d'appliquer cette loi. On est arrivé au bout, là, au plus absurde, puisque les juges d'instruction nous disent qu'il y avait d'autres moyens d'arrêter la voiture, sans nous dire lesquels, puisque, en réalité, il n'y avait pas d'autres moyens d'arrêter cette voiture. 50 mètres derrière, il y avait des gens qui passaient sur un passage piéton et qui auraient été renversés immanquablement. Et donc, le rôle du policier, son travail, c'était d'appliquer un tir à ce moment-là. La justice refuse de le reconnaître parce qu'elle s'est elle-même pris les pieds dans le tapis depuis le départ. J'attends de tomber sur un magistrat qui aura l'intelligence et le courage de dire stop, de dire bon, ça suffit, on va rétablir les choses, on va rétablir la loi et on va appliquer la loi et on va libérer de la contrainte judiciaire ce policier.
Maître Laurent-Franck Liénard, avocat du policier mis en cause dans cette affaire Naël. La justice, il en a aussi été question à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, le Premier ministre a condamné les violences qui ont accompagné la célébration du titre européen du PSG. Et alors que de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la clémence des jugements prononcés jusqu'à présent à l'encontre des casseurs, ils souhaitent voir instaurer des peines minimales dans ce genre de situation.
Ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales.
Des peines minimales contre les casseurs, mais aussi la suppression du sursis lorsqu'il s'agit d'attaques contre les forces de l'ordre. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est sur la même ligne. Exemple de l'incompréhension de la clémence des jugements prononcés, celui qui concerne un casseur arrêté et formellement identifié alors qu'il vandalisait un magasin. Cet homme en situation irrégulière est ressorti libre de l'audience sous les yeux du gérant du magasin qu'il a vandalisé, Jean-Baptiste Marty.
Assis sur son strapontin, Rafik, 41 ans, la tête dans ses mains, fait face à un de ses pilleurs, Ahmed F., dans le box des prévenus, un Algérien sous OQTF depuis 2 ans. Samedi soir, l'homme est interpellé en plein caisse d'un magasin de téléphonie sur les Champs-Élysées. Rafik, le gérant, est alors alerté.
J'ai reçu un coup de fil d'un directeur en face d'un restaurant qui m'appelle. Il me dit que ton magasin est saccagé, vandalisé, ils sont en train de voler.
Bilan, 80% du magasin est détruit, des dizaines de portables volés, des dégâts estimés à une centaine de milliers d'euros.
Ça me fait très mal, ça fait un an que j'ai fait ce magasin-là. J'ai pas pris de mes salaires, j'ai rempli le magasin pour pouvoir augmenter mon stock. Je vois partir en moins d'une heure, tout est pillé.
Face au juge, Ahmed F. assure n'avoir rien voulu voler. Pourtant, des policiers disent l'avoir aperçu les mains sur les étagères des enceintes. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende et donc ressort libre sous le regard dépité, larmes aux yeux de Rafik.
Il est 11h56, une dernière pause dans ce journal et on voit toute l'actualité sportive dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Dimanche 15 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des pères sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Du mardi au vendredi à 6h20 et 11h15 et le samedi à 8h, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le Village Automobile PK4 à Nouméa. Le Village Automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actualité du tennis avec les quarts de finale de Roland-Garros et le tenant du titre poursuit l'aventure, Mika Juneski.
L'Espagnol Carlos Alcaraz qui a dominé l'Américain Tommy Paul en moins de 2 heures de match. Victoire 6-0, 6-1, 6-4. Il défiera au prochain tour l'Italien Lorenzo Musetti, tombeur de son côté d'un autre Américain, Frances Tiafoe, 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Ce soir, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, sera opposé au Kazakh Alexander Bublik et le Serbe Novak Djokovic croisera le fer avec l'Allemand Alexander Zverev. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka a sorti la Chinoise Qing Wenzheng 7-6, 6-3 et la Polonaise Iga Swiatek a sorti la compagne de Gaël Monfils, l'Ukrainienne Elena Svitolina sur le score de 6-1, 7-5. Ce soir, le match à ne pas manquer, c'est celui de la surprenante française Loïse Boisson. À 22 ans, la tricolore, 361e joueuse au classement mondial, continuera sa folle aventure à Roland-Garros dans la cour des grands. Elle affrontera la 6e joueuse mondiale, la russe Mira Andreeva. Loïse Boisson, arrivée sur la terre battue parisienne avec une wild card, ne s'interdit pas de rêver aux portes des demi-finales.
C'est un rêve au départ, déjà de jouer Roland-Garros. Ensuite, voilà, d'aller de le gagner. C'est un rêve et c'est un objectif aussi. Donc voilà, d'être en quart, c'est déjà une étape, on va dire. C'est super que ça se passe comme ça et je ne pouvais pas espérer mieux en arrivant ici.
Et le dernier quart de finale du tableau féminin sera 100% américain entre Coco Gauff et Madison Keys. On soulignera qu'il y a encore un Français en lice en double, Édouard Rogelet-Vasselin qui a atteint les quarts de finale associé au Polonais Hugo Nys.
Le football maintenant, et d'abord le football au féminin avec l'équipe de France dames qui termine les phases de groupe de la Ligue des Nations avec une nouvelle victoire.
Oui, un succès en Islande sur le score de 2-0 pour atteindre les demi-finales de la compétition et finir sur un sans faute cette 6e journée des phases de groupe. Le Final Four du tournoi se disputera au mois d'octobre face à l'Allemagne, l'Espagne et la Suède. D'ici là, les Françaises disputeront déjà l'Euro prévu du 2 au 27 juillet prochain.
Et de son côté, l'équipe de France messieurs prépare la demi-finale de la Ligue des Nations.
À peine le sacre du PSG célébré, qu'un nouveau rendez-vous au sommet attend les fans de foot et les Bleus qui joueront donc vendredi matin face à l'Espagne pour tenter d'atteindre la finale. Les Parisiens ont retrouvé le reste du camp tricolore avec Mbappé qui n'a pas manqué de féliciter ses anciens partenaires. Et pour ce match, Didier Deschamps a fait appel à Ryan Cherki, le Lyonnais désormais convoité par de grands clubs européens. Ce dernier est fier de rejoindre la France. Ryan Cherki qui est donc convoqué pour la première fois sous le maillot bleu.
C'est un chemin long pour arriver ici, donc on est patient, on travaille. Je suis heureux et je profite au maximum. Je pense que les joueurs qu'on a, ils sont forts dans tous les domaines. Donc si on fait appel à moi pour mettre de la créativité sur le terrain, je ne louperai pas ma chance, ça c'est sûr.
Le match France-Espagne, demi-finale de la Ligue des Nations, à suivre vendredi matin, coup d'envoi à 6h, heure de Nouméa.
Le sport côté calédonien maintenant, et on va entendre Axel Raymond, Michael. Il sera engagé le week-end prochain sur les championnats de France de force athlétique en métropole.
Après son titre de vice-champion du monde master décroché l'année dernière en Afrique du Sud, Axel Raymond continue son aventure avec l'objectif de confirmer. Il sera en lice chez les moins de 93 kilos et ne cache pas ses ambitions sur la scène nationale.
Dans ma tête, je suis un petit peu plus posé qu'auparavant, mais j'ai quand même une petite pression sur ces championnats de France parce qu'il va falloir montrer que je mérite ma place. Je pars sur avec des objectifs, il faut que je prenne le titre de champion de France. Il y a quand même un gros morceau, il y a un athlète qui vient de faire 4e au championnat d'Europe, ce sera ma target un petit peu. Il va falloir que je démontre que les championnats du monde, ce n'était pas un hasard. Je suis arrivé au championnat du monde par un bien décalé en fin de compte, je suis arrivé au championnat du monde grâce à un repêchage. J'ai pas fait les qualifications au championnat de France et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y participer. Donc il va falloir que je montre que j'ai ma place en équipe de France vu que j'ai pas été qualifié pour les championnats d'Europe n'ayant pas fait les qualifications des championnats de France 2024. Donc là je compte bien m'asseoir sur cette place et pouvoir dire voilà, je veux participer au monde et aux Europes.
Axel Raymond qui a atteint les sommets par ses propres moyens, sans sponsor, sans coach pour l'accompagner sur place, mais sans jamais abdiquer. L'ancien champion de taekwondo a surpris la concurrence en force athlétique et il a gardé son mental de guerrier pour viser la victoire.
Je m'entraîne toujours en salle avec toujours les mêmes coéquipiers, Cobra et mon coach Kenny Wendt, et bien sûr mes petits entraînements au fond de mon jardin. Ce sera encore un coaching à distance, mais bon, au fur et à mesure du temps, on commence à prendre l'habitude. Ça étonne beaucoup de personnes déjà quand je suis arrivé au championnat du monde l'an dernier. On me demandait d'où je sortais parce que je n'étais pas sur le circuit international ni national. Aujourd'hui, voilà, on recommence à remettre la Nouvelle-Calédonie sur la carte. Je commence un petit peu plus scruté. J'espère que d'autres athlètes vont suivre mon chemin. Comme je le dis toujours, c'est très facile d'arriver à un certain niveau, mais c'est beaucoup plus compliqué de le garder. Moi, je fais du sport en équipe de Calédonie depuis l'âge de 14 ans. On peut plus dire est-ce que tu as le mental pour partir en compétition. En fait, on part comme si on partait au travail, tout simplement. Ça devient une habitude. C'est cyclique. Là, j'ai fait l'Open d'Australie. C'est tellement naturel pour moi que j'ai fait l'Open. Je suis parti le vendredi, compétition le samedi, retour le dimanche. C'est devenu une habitude. Et là, pour les championnats de France, j'y vais avec une petite pression quand même, mais j'essaie d'y aller avec un petit peu plus de recul et avec un petit peu plus de maturité.
Axel Raymond, le Calédonien qui sera engagé lors des prochains championnats de France de force athlétique. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Il espère bien ramener encore une fois dans ses valises de nouvelles médailles.
Le départ de la Groupama Race, la course en voilier autour de la Calédonie sans escale, sera donné le dimanche 15 juin, vous le savez. Et cette semaine, à cette occasion, nous jouons sur Radio Rythme Bleu pour vous offrir de magnifiques cadeaux, des cadeaux offerts d'ailleurs par la Galerie Port Plaisance et ses commerçants. Alors pour jouer, c'est très simple, hein. Vous envoyez GR au 3146, GR au 3146. Le cadeau du jour, le voici, attention, c'est un cadeau d'une valeur de 41 400 francs qui comprend une paire de lunettes solaires signées Afflelou avec son cordon, des bons cadeaux chez Brand Folly, Promode, VIP, Marlène, California, Sandwichenko et même la galerie elle-même. 41 400 francs de bons d'achat, c'est peut-être pour vous. Il faut envoyer GR au 31 46 dès maintenant. Attention, le tirage au sort a lieu à 17h30 et le nom du gagnant ce soir dans le journal de 17h45.